Bonjour, je suis Danilo Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le rendez-vous marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo, afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques, jeunes ou établies, à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la seconde partie de mon épisode de podcast avec Thibaut Sagnier, qui est le fondateur de l'agence Emailio, une agence d'email marketing pour les e-commerçants. Pour rappel, la semaine dernière, on a vu avec Thibaut les bases essentielles de l'email marketing pour les e-commerçants, à la fois ceux qui font entre 0 et 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et ceux qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Dans cette seconde partie d'épisode, on passe à des réflexions plus avancées sur l'email marketing. Donc tout d'abord, il y a la personnalisation, où j'ai demandé à Thibaut de comment travailler la personnalisation de ses email marketing autrement que par le nom et le prénom. Ensuite, on s'est penché sur la conception des emails et le copywriting. J'ai demandé à Thibaut quels sont les éléments de design qui doivent être inclus dans les emails pour maximiser l'engagement, comment rédiger des objets d'email accrocheurs pour augmenter les taux d'ouverture et quelles sont les bonnes pratiques qu'il préconise en matière de rédaction pour le corps de l'email. On passe ensuite aux indicateurs clés de performance et j'ai demandé à Thibaut comment mesurer ses efforts en email marketing, quels sont ses indicateurs clés de performance et pour chacun d'entre eux, quels sont les benchmarks qu'il faut avoir en tête pour bien se situer. Et pour terminer, j'ai demandé à Thibaut s'il observe des tendances sur l'email marketing qui reviennent de plus en plus souvent et s'il voit l'intelligence artificielle chambouler aussi son métier, comme c'est le cas pour la publicité en ligne. Et voilà pour le programme de cette deuxième partie d'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Donc moi j'avais d'autres questions pour continuer dans ce podcast qui est vraiment hyper intéressant. C'était le sujet de la personnalisation qui sera toujours un enjeu dans l'email marketing parce que les gens veulent toujours se sentir plus valorisés et qu'on leur parle à eux, sachant qu'ils savent que maintenant que les marketeurs utilisent leurs données. Depuis un temps, on pensait que la personnalisation c'était juste appeler le client par son prénom, mais bon ça tout le monde sait très bien que c'est plus vraiment la personnalisation. Donc qu'est-ce que toi tu recommandes pour recommandes conseils, qu'est-ce que tu vois habituellement pour personnaliser un peu mieux tes emails? Est-ce que tu as des quick tips, des quick wins, des bonnes pratiques qu'on peut facilement utiliser pour plus facilement personnaliser ses emails marketing?
Oui, bah écoute, on en a déjà un petit peu parlé parce que ça se rejoint avec certains points qu'on a abordés plus tôt. Pour moi, aujourd'hui, vraiment une stratégie de personnalisation, ça fait partie des enjeux évidemment aujourd'hui de la communication, c'est personnaliser les choses au maximum. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de la data pour pouvoir personnaliser. Donc concrètement, si tu as un site et que tu prends un mail et que tu prends rien d'autre comme information, tu vas pouvoir personnaliser, mais de manière très light, sur des bases clients ou clients, tes clients ou pas, et dans quel cas on va faire ci. Donc ça peut se faire, mais de manière très light. Par contre, si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, encore une fois, la prise de data, c'est très important. Ça peut se faire à la fois sur le site. Donc sur le site, tu peux avoir des formulaires, il y a pas mal de marques qu'on accompagne qui ont genre des diagnostics sur leur site. Donc diagnostic de bien-être, diagnostic de peau, diagnostic des cheveux, diagnostic de voilà. Et ça c'est un format qui est très intéressant parce que tu prends beaucoup d'informations sur la personne et après tu fais remonter cette information dans Klaviyo et à partir de là, nous on peut choisir selon la thématique, selon la problématique, selon la spécificité de la personne, on va pouvoir faire telle et telle communication. Donc ça effectivement c'est très important. La prise de data, ça peut se faire donc sur des diagnostics, mais ça peut se faire aussi sur des pop-up où une fois que t'as mis ton mail, on peut te mettre en plus un petit formulaire ensuite en deuxième partie du pop-up en disant tiens, dis-nous ce qui t'intéresse chez nous et tu mets tu vois quatre options tu crées des profils spécifiques et tu laisses la personne en fait te donner un petit peu les données par rapport à ça. Donc la prise de la data, c'est un sujet qui est très important pour pouvoir bien personnaliser tes emails. Bien segmenter ta base, évidemment, une fois que tu as la data, là c'est un enjeu de créer des segments qui vont être pertinents, qui vont être cohérents. Et donc à partir de là, ça c'est un peu un jeu de trouver tes segments et de les cibler au maximum. Et puis après, c'est une question de... Alors après, il y a la partie éditoriale. Quand tu crées ta stratégie éditoriale, c'est la pensée à un niveau justement où d'intégrer la segmentation dans la thématique. Donc si tu te dis, je vais faire Noël, ok, on va faire une campagne Noël, très bien. Mais si tu te dis, je vais faire Noël pour nos clients et je vais faire Noël pour les non-clients, je vais faire Noël pour les VIP qui, eux, ont déjà passé de commande chez nous plus de 3 fois, et faire des offres un peu spécifiques à chaque fois. Encore une fois, tu rentres dans un niveau qui va être beaucoup plus avancé, du coup, qui demande plus de travail, mais qui permet de toucher les gens de manière beaucoup plus précise, parce que dans ta stratégie éditoriale, tu intègres cette notion de segmentation et donc qui apporte de la personnalisation.
J'ai compris.
Voilà. Donc ça c'est un peu les points principaux. Après, il y a des petites touches que tu peux mettre en mettant les prénoms dans les emails, en disant salut Danilo. Ça, c'est des petites touches comme ça, c'est capter les dates d'anniversaire et pouvoir relancer les gens durant les anniversaires et ça montre et faire un petit cadeau, des petites touches comme ça où tu montres vraiment que tu es proche de ta communauté. Ça peut aussi apporter beaucoup de valeur.
Ok, c'est très clair pour moi. Écoute, je te propose de passer à l'autre sujet, la partie créa. Donc là, ça va dépendre de comment est-ce qu'on va pouvoir bien l'aborder et bien en parler dans un podcast, parce que c'est jamais facile de montrer, enfin d'en parler à l'audio. Mais si on prend la conception des emails et le copywriting, prenons dans un premier temps les éléments de design. Ben, c'est quoi pour toi les éléments de design qui vont être inclus dans les emails pour maximiser l'engagement? Ça peut être des visuels, des gifs, des vidéos. Combien il en faut? Tu vois, c'est un peu ça que j'ai en tête. C'est à quoi doit ressembler un bon mail pour un e-commerce?
Alors, ça, c'est un sujet que j'adore ce sujet, et c'est un peu ça qui m'a à la base attiré justement vers le sujet de l'emailing. C'était la partie plus créative parce que ça, je trouvais ça cool d'analyser des emails et voir ce qui, voilà, un joli mail versus un mail un peu moche. Je tiens à distinguer deux choses, c'est que il y a performance et visuel. C'est pas toujours lié. Donc, tu peux faire des emails plein texte, sans visuel, sans rien, qui vont cartonner parce que ça va droit au but, parce que la personne lit le mail comme si elle lisait le mail de quelqu'un qu'elle connaissait. Donc c'est en fait il y a des formats de mails qui, ce que je veux dire par là, c'est que plus de visuel, plus de joli, plus de tout ça, ne veut pas forcément dire plus de performance. Donc ça,
Ok.
c'est le petit point là-dessus quand même, avant de rentrer dans les détails
C'est
de
bien
tout ça.
dit, parce que moi, dans ma tête, mais j'ai toujours dit justement, je vois beaucoup de mails d'e-commerçants avec des visuels, donc c'est la norme. Donc ça veut dire qu'il faut, ouais, ça veut dire qu'il faut des visuels dans les emails.
Ouais, c'est la norme parce que il y a un enjeu aussi de marque et de représentation de la marque qui est très important. Donc l'email c'est un moyen de communication qui met en avant la marque, et donc forcément toutes les marques ont envie, ont besoin que ce soit représentatif de qui ils sont. Donc à partir de là, les visuels sont très importants. Mais voilà, après c'est un mix à avoir, et je te dis pas que c'est du 50-50, hein. Nous les mails qu'on fait du plein texte, c'est un mail dans le mois max. Mais c'est de temps en temps un petit mail en plein texte, ça peut aussi très bien faire le boulot. Donc si tu as une marque et qu'il n'y a pas d'enjeu particulier de branding avancé, on va dire, voilà, le plain text, ça peut être aussi un sujet. Maintenant, effectivement, nous, quand on travaille nos emails, on veut toujours les travailler pour qu'ils soient jolis, pour qu'ils soient impactants et qui amènent de l'engagement. Donc, faire un mail, que un mail joli, ça veut tout et rien dire. Et encore une fois, c'est pas ça qui va t'amener que de la performance.
Bien
Donc,
sûr.
pour moi, concrètement, un mail efficace, c'est un mail qui est clair, qui est aéré, dans lequel l'information est mise en avant de manière évidente. Faut pas aller chercher, creuser, scroller absolument pour trouver le sujet qui est adressé dans le mail. Faut savoir que l'attention des gens est quand même limitée. Quand tu lis un mail, on est tous victimes de ça, je pense, mais on lit un peu en diagonale. On va pas forcément lire ligne par ligne tout ce qui se passe de haut en bas. Donc c'est important de permettre à la personne de lire ton mail en diagonale et de capter l'information très rapidement. Donc, il faut que l'information soit mise en avant, il faut que le mail soit aéré pour que visuellement, il n'y ait pas de blocage à ce que tu prennes action. Ça, c'est
Okay.
un premier point. Deuxième point, c'est important de varier un peu les structures de tes emails, pas faire toujours la même chose et en fait que le client et l'abonné, au bout d'un moment, bah, en fait, il a enregistré le mail, il a enregistré le format et c'est toujours la même chose. Donc, en fait, limite, il lit plus, il voit que le format et il est bloqué par rapport à ça. Donc, c'est varier les emails et varier le contenu, c'est toujours important.
D'accord.
En termes de GIF, je trouve que c'est très bien de dynamiser les emails. Alors, faut faire attention à pas, tu, pas y a, le format vidéo n'est pas accepté sur les emails, donc on n'a pas de vidéo à proprement parler. Par contre, on peut faire des GIFs, mais attention aux GIFs parce que c'est souvent des fichiers qui sont très lourds. Et quand tu as un mail qui est trop lourd, après, le mail peut ne pas être délivré de la bonne manière. Donc, il peut être ce qu'on appelle clippé, enfin, en tout cas, c'est le terme anglais, où en gros, le mail, il apparaît à 50%, 80%, mais la suite n'apparaît plus parce que le mail n'est pas passé, en gros. Donc, il faut faire attention à pas que ton mail soit trop lourd, sinon ça va impacter la délivrabilité. Mais un bon GIF, bien calé, qui met bien en avant le produit, qui crée un univers. Là, notamment, on est sur Noël, on est sur la fin d'année, on est sur l'hiver. Tu vas avoir des emails passés avec de la neige qui va tomber, avec
Oui.
le produit qui est mis en avant, avec le texte qui est peut-être un peu animé. Ça, c'est super. Il faut pas en abuser, selon moi. En faire un peu, c'est très bien. En faire beaucoup, ça peut être un problème. Donc, avoir un bon équilibre là-dessus. Donc voilà, moi concrètement, si je devais résumer ça rapidement, ce serait un GIF simple mais sympa qui crée un univers, crée un environnement, un message fort qui est clairement mis en avant, un call to action qui est bien présent, qu'on voit bien, qui est aéré par rapport au texte, pas que tout soit condensé. Et puis après, dans les sections du dessous, c'est aller plus loin par rapport au message, approfondir un petit peu le sujet. Que ce soit un mix entre texte et visuel, ça c'est toujours bien, je trouve. Moi, je suis pas fan des marques qui font que du visuel sur tout le mail,
Oui,
de
ça
A
c'est
à
vrai.
Z.
Non, ça j'aime pas. Mais après,
Voilà.
il y a des gens dans prêt-à-porter qui le font parce que ça fait partie du jeu. On est dans l'aspirationnel, donc évidemment, on a beaucoup de visuels. Mais c'est vrai que des images dans le mail, je trouve pas que c'est le plus efficace pour la majeure partie des e-commerçants.
Ouais. Surtout qu'après, encore une fois, d'un point de vue expérience, si jamais l'utilisateur a une mauvaise connexion Internet,
Ouais,
le
c'est
mail
vrai.
va pas se charger. En fait, nous, la règle, c'est si jamais il y a un problème d'Internet, il faut que le mail puisse quand même, l'essentiel du mail puisse quand même apparaître. Donc, ça veut dire avoir un mix entre visuel et plain texte, enfin, les textes sur le mail, avec un call to action qui est idéalement pas une image, mais un call to action dédié par rapport au builder Klaviyo, notamment. Voilà, et si tu arrives à garder les choses comme ça, tu auras un mec qui va être performant.
Ok. En tout cas, c'est très clair de ton côté. Et du coup, je vais te demander, est-ce que soit sur ton site ou est-ce que toi, sur ton site, tu as des exemples de mails, des exemples de design de mails que vous avez déjà produits pour qu'on puisse déjà se faire une idée de à quoi ressemblent ces mails-là? Ça pourrait être intéressant. Ou est-ce que directement, tu n'as pas de démarque à conseiller qu'on pourrait suivre pour voir à quoi ressemblent leurs emails marketing si tu considères qu'ils respectent les bonnes pratiques que tu as données? Parce que je trouve ça hyper intéressant. Comme vous savez, je suis plutôt quelqu'un de très visuel. Donc, j'aime bien aussi pouvoir donner la possibilité de se retrouver et de voir des visuels.
Oui, bien sûr. Nous sur notre site, on a une section no visuel qui apparaît sur le site. Donc sur le site imelio.fr, tu peux voir un peu un récap de ce qu'on a fait. Alors j'ai pas actualisé ça récemment, mais il faudrait que j'actualise d'ailleurs. Mais il y a une bonne dizaine, voire une vingtaine de mails qu'on a créés
Je
pour diverses marques.
vois. Ah, c'est marrant, vous avez Tilio. Je les connais, c'est les CBD.
On a qui, pardon?
J'ai vu Tilio, c'est le CBD. C'est pas mal ça.
Il y a
Et
Tilio, ouais.
Tilio aussi. Basé sur le podcast. Ouais, c'est intéressant. Mais il y a quelques marques intéressantes, donc franchement, c'est cool d'aller voir. Et c'est vrai que c'est bien fait comme ça, tu vois le mail qui défile. J'ai pas pensé à te poser la question au début, mais c'est pas mal pour illustrer ce que tu as dit.
Ouais. Malheureusement, sur le site, c'est difficile de mettre les mails qui contiennent des GIFs parce que pour télécharger, c'est pas simple. Mais donc là, les emails sont fixes, on va dire. Mais voilà, ça donne déjà une idée. Après, il faut faire de la veille. Bah, ouais, encore une fois, moi, je fais pas mal de veille sur des marques américaines notamment. Il y a des marques comme j'aime bien Allbirds, une marque de chaussures. Ils ont des emails qui sont hyper clean, hyper hyper sympas. En France, j'aime bien suivre des marques comme Salomon, une marque outdoors qui est très en hiver, très montagne, avec souvent des très beaux visuels, avec des call to action qui sont très clairs. Donc, moi, il y a pas mal de marques comme ça que je suis. et qui permettent après d'alimenter aussi une réflexion, d'alimenter une, voilà, c'est une veille créative qui est, je trouve, importante et que nous, on fait de manière générale, on a processisé en interne chez Emilio, pour être sûr qu'on reste au top de la tendance et de ce qui se fait et qu'on pousse aussi, nous, nos propres créas au maximum de ce qu'on peut faire, quoi.
Ok, super, merci beaucoup pour les infos. Maintenant, je vais peut-être bien passer sur la partie plus rédactionnelle, copywriting. Au niveau des objets d'email, si tu as des conseils pour écrire justement des objets d'email qui sont accrocheurs pour augmenter ces taux d'ouverture. Et puis après, on passera au cœur de l'email et de comment tu peux l'optimiser au niveau copywriting pour améliorer le moment où les gens vont cliquer sur le call to action.
Oui, par rapport aux objets, ça va vraiment dépendre de l'industrie, du positionnement de la marque. Donc, c'est très compliqué de donner un sujet spécifique par rapport à ça. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas que l'objet soit trop long. Parce que si l'objet est long, on ne va pas pouvoir le lire correctement, ça ne va pas être très clair. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des objets qu'on peut lire, en fait, dans l'intégralité sur le téléphone. Donc, ça c'est l'idéal. Après, évidemment, c'est du cas par cas et ça dépend des newsletters. Donc, voilà. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, si jamais il y a des doutes là-dessus, il faut toujours faire de l'A/B test, A/B tester différents formats, voir ce qui fonctionne le mieux. C'est beaucoup du test and learn pour les objets de mail. Du moment que tu fais quelque chose de court, d'impactant, qui va droit au but, et qui aussi, moi, quand je réfléchis à ce sujet, je réfléchis de manière un peu plus 360. Donc, il y a un objet, il y a un preview. Donc, tu vois ton objet de mail en dessous. Tu as un petit texte supplémentaire. Et moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille chez Emilio, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours une continuité dans le message. Donc, en fait, il faut que l'objet, le preview, et que tu arrives sur le mail, et que le première chose que tu vas voir sur le mail, donc souvent, c'est un visuel, peut-être avec du texte ou un titre sur le mail, il faut qu'il y ait une fluidité dans l'information, que c'est comme si tu ouvrais une porte, une deuxième porte, une troisième porte, et qu'à chaque fois, la porte, elle t'amène quelque
Oui.
part et qu'il y ait une vraie direction. La chose à ne pas faire, c'est de créer un objet qui dit quelque chose, un preview qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, et tu arrives sur le mail et il y a encore une autre information. Et là, c'était complètement perdu et t'as pas pris, en gros, t'as pas pris la main de l'abonné pour l'amener vers le call to action.
100% d'accord.
Voilà. Donc c'est plus dans ce sens-là que moi je donnerais des conseils là-dessus. Après, par rapport au wording, par rapport à tout ça, t'as des marques qui mettent des emojis, d'autres qui n'en mettent pas. Ça c'est vraiment propre à la marque et il faut A/B tester quoi. Il faut A/B tester par rapport à ce que vous souhaitez obtenir comme résultat.
D'accord, merci beaucoup, c'est très clair, mais tu as raison, il n'y a pas vraiment de guideline générale sur qu'est-ce qu'il faut dire dans l'objet d'email, il faut que ce soit court, impactant. C'est un peu ce que j'attendais de toi sur là-dessus. Après, évidemment, plus c'est quelque chose de vendeur ou je sais pas, une nouveauté, évidemment qu'on va dire nouveauté, qu'on va dire offre à durée limitée, qu'on va dire le pourcentage de l'offre, ça me paraît logique de le dire quand c'est quelque chose qui est très direct. Après, comme tu dis, il faut une continuité entre l'objet de l'email. Est-ce que tu racontes dès le départ? Et justement, à ce propos-là, dans le corps de l'email, comme toujours, il y a des concepts de copywriting assez basiques sur la preuve sociale, les bénéfices vers ses fonctionnalités, la réassurance. Comment tu articules un peu tout ça dans ton corps d'email pour rendre ça engageant et que ça donne envie d'appuyer sur le bouton de taper sur le bouton de call to action?
Ouais. Sur le corps de l'email, pour rester dans cette idée de continuité, pour moi, il y a la première partie du corps d'email qui doit être l'accroche. Donc, le premier paragraphe, c'est comment tu captes l'attention pour t'assurer que la personne va continuer à lire. Ensuite, tu arrives dans la partie plutôt approfondir le sujet. Donc, après l'accroche, tu approfondis ton sujet et tu expliques un petit peu les bénéfices ou t'es plus dans la partie plutôt description. Et ensuite, en troisième partie de corps de texte, c'est que là, t'amènes plutôt l'action. Et donc là, tu te focalises plutôt sur l'action que la personne doit prendre, qui doit après amener vers le call to action. Et si tu arrives à suivre, tu accroches, tu approfondis, et tu présentes la solution, et tu as un call to action qui est très clair, là, tu as un mail qui va être hyper efficace parce que la personne, elle va se faire. Voilà, c'est comme si tu lui prenais la main, tu l'amenais vers le call to action, et voilà, il faut cliquer là
Ouais.
pour telle et telle raison. Voilà. Et ça, c'est efficace.
Tout ça me fait penser aux structures de copywriting qui sont classiques, c'est AIDA et PAS, enfin PAS, donc pour attention, intérêt, désir, action, classique, c'est un peu ce que tu m'as décrit, ou alors problème, application, solution. Je suppose que c'est des choses que tes frameworks que toi tu utilises aussi pour tes clients en fonction de l'email que tu vas écrire.
Oui, absolument. C'est d'un point de vue copywriting, on reste sur des bases de copywriting assez classiques. Après, c'est adapté aux emails, évidemment. Donc, il faut revoir la longueur de ce que tu dis. Bon, clairement, il faut que ça reste dans un format email et que ça reste impactant.
Ouais.
Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Ouais.
Ouais, parce que pour moi, un format d'email, surtout en e-commerce, c'est court. Enfin, je vois même les exemples que tu as mis sur ton site, 300 mots, un truc comme ça.
Ouais, c'est clair que ça nous arrive d'écrire des newsletters qui sont assez longues. Il y a beaucoup de textes. Et ça, c'est on fait quand il y a un sujet, il faut approfondir parce que la marque veut faire de la pédagogie et que, ils sont plus en train de travailler la relation client. Mais dans la plupart des cas, avoir des emails plus courts et plus impactants avec des visuels et des call to action très clairs, ça fait la différence. Donc oui, nous, on est assez friands de mails courts, en tout cas d'un point de vue texte, que ce soit pas trop long, quoi.
Ok, non, mais ça, sur le coup, ça m'étonne pas. Mais tu as bien fait de le rappeler. Ok, bah écoute, moi, je pense qu'on a bien avancé là-dessus. J'ai encore deux questions à te poser pour terminer ce podcast qui est, encore une fois, hyper intéressant. Enfin, la première, c'est comment est-ce que tu mesures tes efforts en email marketing? Donc, concrètement, bah, c'est quoi tes indicateurs clés de performance, comme ceux qu'on pourrait en avoir en acquisition? Et si tu as des benchmarks sur les taux d'ouverture, les taux de clic, les taux de conversion, ça serait super pour ceux qui nous écoutent.
Ouais. Alors, en termes de KPIs, nous qu'on va traquer, bah je vais pas t'apprendre grand-chose, on va dire, parce que c'est assez classique. Tu en as mentionné quelques-uns déjà. Évidemment, les taux d'ouverture, ça reste un sujet qui est important. Donc, on va évidemment traquer les taux d'ouverture. Ça a aussi un impact sur la délivrabilité. Donc, c'est un sujet qui est d'autant plus important que si jamais les gens n'ouvrent pas tes emails, bah, tu es plus susceptible de partir en spam et donc que les gens ne reçoivent plus tes emails du tout. Donc ça devient un problème. Donc de manière générale, les taux d'ouverture, c'est un sujet qui va aussi conditionner la segmentation qu'on va utiliser et le type de gens qu'on va l'adresser. Donc ça, c'est un sujet important. En termes de benchmark, de manière générale, sur les KPIs, j'ai pas forcément envie de trop m'impliquer dedans parce que ça va beaucoup évoluer selon les industries, selon les tailles de base, selon la typologie de la marque. Donc ça, c'est pas forcément toujours pertinent de se mettre des benchmarks. Maintenant, évidemment, il faut quand même avoir un peu son garde-fou à côté et se dire est-ce qu'on est dans les zones ou pas. Pour les taux d'ouverture, de manière générale, quand tu es en dessous de 20%, c'est qu'il y a un problème. Donc en dessous de 20%, il faut faire très attention parce que là, tu vas commencer à te faire embêter et très certainement, si tu continues à faire des emails en dessous de 20% de taux d'ouverture, tu finiras largement dans les spams par la suite. Entre 20 et 30%, c'est correct, mais c'est perfectible. Nous, on aime bien être aux alentours des 30%, entre 30 et 40%. Moi, c'est une zone dans laquelle je suis très à l'aise parce que le taux d'ouverture, si tu veux, c'est pas. Nous, il y a des marques qui me disent, ouais, il faut qu'on fasse 50% de taux d'ouverture, machin. Et en fait, là, il faut comprendre que le taux d'ouverture, c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est pas que les gens que t'aies des taux élevés. L'objectif, c'est que tu aies un nombre en valeur absolue qui soit élevé. Donc, c'est des gens qui ouvrent tes emails et qui aillent convertir. Donc, pour nous, l'objectif, quand on travaille nos segments et les taux notamment qu'on va les suivre, c'est est-ce qu'on est efficace dans la segmentation qu'on est en train de mettre en avant? Est-ce que ça nous permet d'aller capter le plus de valeur possible par rapport à l'objectif qu'on veut mettre en place? Donc, si tu as un taux d'ouverture à 50%, mais que tu as envoyé un mail à que 20% de ta base, alors que tu as une super offre, bah peut-être que ça vaudrait plus la peine d'aller envoyer le mail à plus de personnes, avoir un taux à 25-30%, mais d'avoir ciblé des milliers de personnes en plus et avoir des milliers de gens qui ont cliqué sur ton mail en plus.
Ok,
Donc
c'est
voilà,
important.
c'est un sujet qui revient beaucoup, qui donne pas mal d'anxiété et de stress sur certaines marques par rapport à ça. Dès lors que tu es dans une zone confortable aux alentours des 30%, et ben, tu peux te permettre de faire pas mal de choses sur les segmentations. Et c'est globalement, voilà, c'est un bon benchmark, j'ai envie de
Une autre question là qui vient pour pas que j'oublie. Le taux
dire.
de désabonnement, je sais que c'est aussi quelque chose qu'on peut regarder un tout petit peu. Je sais qu'au-delà de 1,5% ou 1%, là, c'est très très mauvais. Ça veut dire que si tu as 1% de ta base qui s'en va à chaque fois, c'est dangereux. C'est quoi un peu la limite que tu donnes? Est-ce que c'est un truc que tu regardes régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, sur lesquels on t'accompagne?
Ouais, bien sûr. Les taux de désabonnement, les taux de spam, c'est des sujets qu'on regarde. Donc le taux de désabonnement, nous, ce qu'on regarde, c'est évidemment que il faut au-dessus de 1%, c'est qu'il y a un problème. Donc si jamais, soit c'est un problème, soit c'est parce que tu es en train de réengager une base qui n'a pas été engagée depuis un certain temps Et ça explique la raison du désabonnement, parce que tu as fait un mail très, très, très poussif sur une base très, très large, ou que tu es en plein Black Friday, et donc il y a des taux d'abonnement qui sont plus élevés. Ça peut s'expliquer. Mais de manière générale, tu as raison, au-dessus d'1%, c'est potentiellement un red flag, il faut faire très attention. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aux alentours de 0,5%, c'est assez OK. Quand tu es à 0,5%, c'est assez sain même. Tu as une base qui vit, qui se désabonne, c'est normal. Donc j'ai envie de dire, voilà, 0,5%, moi, c'est un taux qui me convient bien. Quand tu commences à être à 0,8, 0,9, bah, il faut commencer à faire attention un petit peu. 1%, c'est un peu la limite qu'on se met par rapport à ça. Évidemment, c'est en dessous de 0,5%, bah, c'est que tu as une base qui est très saine et que tout se passe bien. Donc ça, c'est aussi un bon indicateur. Mais avoir 0% de taux de désabonnement, ce n'est pas forcément une bonne chose en soi. Ça veut pas forcément dire que c'est mieux qu'avoir 0,3. Voilà, le désabonnement, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Mais il faut pas non plus en faire un sujet. Dès lors que tu as une stratégie qui est propre et qui est cohérente, c'est très peu probable que tu aies des taux de désabonnement qui soient très élevés.
Mais oui, parce qu'après, derrière, il y a d'autres indicateurs plus importants, comme ben, je peux te citer le chiffre d'affaires que tu as généré par mail ou par mois. Bon, ben, voilà, est-ce que tu es bon, est-ce que tu n'es pas bon? Donc, je pense que
Ça.
c'est aussi que tu regardes.
Oui, nous, sur des stratégies où on sait qu'on pousse et qu'on est bon, qu'on a un bon rythme, qu'on n'est pas trop timide, mais qu'on n'est pas non plus trop agressif et qu'on est vraiment sur un bon équilibre, voir des taux de désabonnement à 0,4, 0,5%, c'est la normalité, quoi.
Ok, d'accord. Le taux de clic, c'est aussi un point important, donc voilà, vous mesurez, c'est normal. Pareil, niveau benchmark, est-ce qu'il y a quelque chose allez, quelque chose, une limite ou une tranche intéressante là-dessus, à savoir?
Oui, bah effectivement, taux de clic, sujet important. Moi, personnellement, j'aime moins le taux de clic que le taux de je sais pas comment on dit en français, le CTR, le click-through rate en anglais. En gros, c'est la distinction, c'est le taux de clic, il est calculé par rapport au nombre de gens qui ont cliqué, par rapport au nombre de gens qui ont reçu le mail. Ça, ce sera ton taux de clic. Donc pour ça, le benchmark, il est à peu près aux alentours, enfin le benchmark, c'est pas un benchmark, mais la zone où nous, on aimerait bien être, c'est à peu près à 1%, au-dessus de 1%.
Oui, comme une pub, finalement.
Voilà, au-dessus d'1%, tu dis, bah, okay, ça se passe bien. Si jamais tu as des taux de clic qui sont à 0, 2%, évidemment, c'est problématique. Mais le click-through rate, donc c'est le taux de clic par rapport au nombre de gens qui ont ouvert ton mail.
C'est mieux.
Donc là, ça donne une meilleure appréciation de la qualité de ton mail, concrètement. Parce que les gens l'ont vu, en fait. Et là, effectivement, on aime bien être aux alentours des, au, autour des, au, au, au-dessus, pardon, de 3%, 3-4% de taux de click-through rate. Là, tu es dans une zone qui commence à être bien, quoi. Mais
D'accord.
ça varie tellement selon les industries, que tu sois en prêt-à-porter ou c'est dans l'industrie du bien-être, tu peux avoir des taux qui vont complètement être différents. Et donc, c'est important de regarder ça par industrie. Klaviyo, ils ont un benchmark qui mettent en avant très clairement sur l'outil, où en fait ils te comparent avec un pool de marques qui est dans ton industrie. Donc ils vont dire, bah, tiens, toi tu as telle marque, on estime que tu es similaire à telle et telle marque, et donc on va créer un benchmark avec plusieurs dizaines de marques,
C'est génial.
et à la fin, toi tu reçois un taux et tu peux te comparer par rapport à ce qui est fait sur le marché.
Ça, c'est génial.
Donc ça, c'est un indicateur. Ouais, c'est toujours intéressant. Je pense pas qu'il faille non plus. Faut faire attention à pas non plus rester bloqué là-dessus, parce que t'as des. Tu sais pas concrètement, tu sais pas qui est dans le benchmark. Et donc ça peut, selon la typologie de produit que tu vends, ça peut être pas forcément très pertinent. Mais c'est un indicateur qui est intéressant à suivre et que nous on regarde évidemment aussi.
Ok, ça marche. Parce que tu as d'autres trucs à dire, enfin d'autres indicateurs à nous donner, d'autres, ouais, certains que tu regardes aussi.
Oui, bah le. Oui, les taux de conversion, évidemment, c'est des taux qu'on regarde aussi, effectivement, pour être sûr que bah, les emails convertissent et qu'on arrive à atteindre nos objectifs.
Ouais.
Là, pareil, en termes de taux, j'ai pas. Enfin, au début, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de benchmark. En fait, je t'en ai donné quand même à chaque fois, donc y en a quand même un petit peu des benchmarks. Mais un taux de conversion, on va dire. Alors, les taux de conversion, globalement, sont assez faibles, hein, parce qu'on est quand même sur des emails où on shoot parfois des mails à des dizaines de milliers de personnes. Tout le monde, évidemment, ne va pas convertir. Donc, tu peux avoir des taux à 0,18%, par exemple, 0,20%. Ça peut être des bons taux déjà de conversion selon le produit que tu vas vendre et la taille de la base. Voilà. Donc les taux de conversion, c'est des choses qu'on traque et on traque aussi l'évolution en fait de ces taux à travers le temps. Donc ça, c'est un sujet important. Les taux de spam, j'en ai parlé. L'autre chose qu'on traque aussi qui est important, c'est le taux de croissance de la liste pour être sûr qu'en fait il y a continuellement des nouveaux abonnés qui rentrent et qui sont rebasés. Parce que c'est important pour nous de régénérer les listes et pas qu'on ait toujours les mêmes personnes dedans, parce qu'au bout d'un moment, bah, quand tu communiques régulièrement, à un moment donné, ça s'essouffle forcément. Et donc c'est important qu'il y ait aussi des nouveaux abonnés qui rentrent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on traque aussi de manière générale, quoi.
Ouais, super clair. Bah, franchement, hyper intéressant. Et c'est vrai que les taux de conversion, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de benchmark. Je pense que le vrai benchmark, c'est le sien, quoi. C'est où est-ce que j'en suis sur mon site, où est-ce que j'en suis sur mes emails marketing d'habitude, et c'est quoi le taux de conversion de cette email-là par rapport à d'autres ou par rapport à d'autres emails que j'ai envoyés pour le même produit. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses et pas regarder ce que fait la concurrence là-dessus. Après, je pense que le taux d'ouverture, le taux de clic, c'est un peu différent. Je pense qu'on peut un peu plus se comparer. Écoute, je termine ce podcast, si tu veux bien, avec une dernière question importante sur peut-être les tendances de fond. Que toi, tu observes sur l'email marketing de plus en plus souvent. Et bah, sous question, est-ce que l'IA vient aussi chambouler votre métier, comme c'est le cas pour nous en tant qu'agence d'acquisition, où l'IA voilà, vient nous dire bah, non, on peut faire des visuels pour vous, on peut gérer vos campagnes à votre place. Donc, est-ce que toi, tu observes la même chose chez toi avec Legio et les autres outils que tu utilises?
Oui, bah écoute, complètement, c'est un sujet qui est évidemment qui est très intéressant, qui est le sujet du présent aujourd'hui, hein, même dès aujourd'hui, on est dedans, dans l'email qui va être de plus en plus présent, je pense, sur les prochaines années. En termes de tendance aujourd'hui, je pense que la tendance principale, c'est plutôt une tendance qui va vers plutôt plus de data, toujours plus de data sur ce qu'on fait, analyser ce qu'on fait, quantifier les choses et utiliser la data pour animer les stratégies. Donc typiquement avant c'était plutôt des stratégies qu'on mettait en place par rapport à des best practices qu'on connaissait et on mettait en place les choses par rapport à voilà, ce qu'on avait appris et ce qu'on sait qui fonctionnait. Aujourd'hui la tendance va plus dans l'analyse de ce qu'on fait par rapport aux chiffres qui ressortent et qui sont maintenant les outils maintenant sont de plus en plus complexes par rapport à ça et permettent d'être plus précis. Donc j'ai envie de dire la tendance c'est plutôt la data first en termes de stratégie. On a déjà parlé de la personnalisation, donc ça c'est un sujet qui revient et
Ok.
qui sera toujours là de toute façon, mais qui prend toujours de plus en plus d'importance parce que plus ta data, plus tu peux être personnalisé et donc plus tu peux être précis dans ce que tu fais. Donc ça c'est clairement des sujets aujourd'hui qui sont d'actualité. Et par rapport à la question sur l'IA, alors nous aujourd'hui ça c'est clairement aujourd'hui ça arrive, on le voit arriver. Si tu veux, c'est dans la partie newsletter, il y a une composante créative qui est quand même assez poussée, voire même très poussée sur le copywriting, sur pas mal de choses. Et aujourd'hui, les outils IA, en tout cas moi de mon expérience pour avoir testé plusieurs fois, aujourd'hui ne remplacent pas une personne qui est créa sur des emails, parce que on peut aller beaucoup plus précisément dans bah justement dans l'écriture des choses et donc aujourd'hui, il n'y a pas encore de solutions qui vont remplacer en fait les personnes qui créent les emails, même si très très certainement que ça arrivera peut-être à un moment donné. Donc ça, faudra suivre un peu l'évolution de ça. Mais demander à ChatGPT de te faire tes emails aujourd'hui, c'est très limité. Nous, enfin moi j'ai testé juste pour voir un peu ce que ça donnait avec des prompts très avancés, essayer de faire des choses hyper clean, etc. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'on arrive toujours, nous, humains, à faire encore mieux que ce que nous propose l'IA sur ce sujet. Parce que dans un mail, il y a quand même pas mal d'éléments et qu'il y a des éléments de brand, de marque, qui sont très forts. Par contre, là où l'IA est aujourd'hui déjà là et qu'elle va prendre de plus en plus d'importance dans notre domaine, c'est plus sur l'analyse des segments. Donc, on a parlé de segments tout à l'heure. Bah aujourd'hui, tu as des outils qui sont en train d'arriver, qui vont en fait automatiquement analyser ton audience, qui va te dire, tiens, lui ou elle souhaiterait plutôt avoir tel produit, et qui va en fait te créer des segments beaucoup plus poussés, parce que
C'est ça.
voilà, parce qu'il y a une analyse de data qui est très très avancée avec des outils très intelligents qui analysent tout ça, quoi.
S'ils te produisent des segments, c'est génial. Parce qu'ils peuvent te suggérer des nouveaux segments à produire. Et comme tu disais tout à l'heure, si en plus de ça, ils peuvent commencer à pousser un certain mail au bon moment, donc le timing selon la fréquence d'achat du client, génial. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs vraiment intéressants. Mais comme tu dis, actuellement, tu peux pas demander à une IA de rédiger ton mail, heureusement. Enfin, même
Non.
si ça peut t'aider, évidemment, ça peut t'aider comme ça peut t'aider pour rédiger une publicité, mais ça ne fait pas encore enfin, niveau créa, on dit tous la même chose. C'est bien, c'est une bonne aide, c'est un bon assistant, mais ça ne nous remplace pas.
Assistant. Non. Mmh. Par contre, là où nous, aujourd'hui, on a des outils qui commencent à arriver, qui vont potentiellement remplacer une partie de ce qu'on fait, en tout cas en termes d'exécution, c'est plutôt la partie commerciale des emails. Donc en fait, aujourd'hui, si tu veux, il y a un concept marketing. Nous, le marketing aujourd'hui tel qu'on le fait, c'est une approche qui est, en anglais, c'est one to many, donc de un à plusieurs. Et ça, c'est la stratégie marketing aujourd'hui qui est pratiquée de manière générale. Et là, ces nouveaux outils vont nous permettre de faire des stratégies one to one, donc en gros de un à un, parce que l'outil, lui, va déterminer en fait quand est-ce que ce serait le bon moment de te réengager toi, Danilo, qui est venu sur tel site. Donc en fait, l'outil, il va capter ton profil, il va capter ton expérience d'achat et il va capter un petit peu ce que tu fais de manière générale, et il va pouvoir dire, bah tiens, Danilo, il faudrait lui faire un petit mail de relance parce qu'on a vu que selon les habitudes qu'il prend, machin, selon des algorithmes très développés, ils vont pouvoir estimer que toi, tu es prêt à revenir sur le site très prochainement. Et donc là, l'outil lui-même va commencer déjà à créer les emails en se basant sur des templates, évidemment, qui sont déjà préconçus par nos soins ou par les marques et qui vont après pouvoir pousser les bons produits à la bonne personne au bon moment. Et ça, c'est des outils qui commencent à arriver, qui vont commencer à se développer de plus en plus. Alors, je pense pas aujourd'hui pour les petites marques qui se développent, voilà, mais pour des marques qui, comme on disait tout à l'heure, qui veulent aller sur du 10 millions, 20 millions, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça, c'est des outils qui vont être, je pense, très prisés et qui le sont déjà d'ailleurs, qui commencent à l'être. Et, ouais. Et cette approche marketing one-to-one va prendre de plus en plus d'ampleur. Et donc, du coup, ça va un peu redéfinir, nous, notre métier. Parce qu'on va devoir s'adapter à être plutôt des pilotes de ces outils pour pouvoir animer l'outil et s'assurer que qu'on cherche un maximum de valeur avec l'outil. Mais dans la partie prise de décision et exécution, c'est l'outil qui va prendre la main dessus, quoi. Donc, je pense que ça, c'est la nouvelle ère qui est en train de se dessiner sur la partie IA, en tout cas pour l'email. Et je pense que ce n'est que le début et il y aura plein de choses qui vont se passer. Donc, c'est assez passionnant en ce moment ce qui se passe.
Ouais, d'autant plus que ça arrive très vite, quoi. Je pense que ce que tu dis là maintenant, peut-être que dans 6 mois, on va commencer à dire oui, mais il y a un nouvel outil qui arrive sur le marché, il faut y aller, il faut le tester. Ils ont lancé tel truc. Donc, c'est que ça peut aller très vite. Enfin, tu parles de ça comme dans un futur, justement, qui pourrait paraître lointain, mais en fait, non, c'est dans 1 an, 2 ans.
Non, c'est déjà là. C'est déjà là, en fait.
Ah, pardon, mais je veux dire que de plus en plus de marques pourront l'adopter, quoi. Donc,
oui.
Voilà. Ok, bah, c'est une bonne conclusion pour ce podcast, à moins que tu veux rajouter un dernier mot de la fin. Mais en tout cas, je te remercie vraiment pour tous tes conseils. Je trouve que c'était hyper intéressant. Enfin, j'ai appris plein de trucs et j'adore parler marketing avec d'autres experts.
Non, bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était trop cool. Super intéressant aussi d'en parler.
Avec plaisir. Bah, écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver pour si on veut échanger avec toi, si on veut bosser avec toi également, je te laisse vraiment la place pour parler de toi, de tes services et ton agence.
Ouais, bah écoute, moi pour me contacter, c'est assez simple. Sur LinkedIn, je suis assez actif et donc c'est un bon moyen pour aller me rentrer en contact et m'envoyer un petit message, donc avec plaisir pour ça. Sinon, on a notre site internet aussi, imelio.fr, sur lequel vous pouvez prendre évidemment un petit rendez-vous pour qu'on puisse discuter de vos stratégies. Ça, c'est assez clairement, un petit rendez-vous de 30 minutes pour faire un petit point sur la stratégie actuelle, telle que vous la voyez, vos enjeux. Ça, c'est des choses qu'on peut discuter et voir s'il y a matière à ce qu'on peut vous aider, vous accompagner. Nous, on accompagne différentes marques dans tout type de domaine, donc on n'est pas limité par rapport à ça. Et on accompagne des marques à la fois sur l'accompagnement, full service, donc on fait tout pour les marques de manière externalisée. Ou alors, on peut aussi faire de la mise en place de flow, on peut aussi travailler sur des projets plus ponctuels.
D'accord.
On a différents types d'accompagnement qui peuvent satisfaire plusieurs types de demandes.
Ok, bah écoute, merci, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Et peut-être question pour terminer, tu produis également du contenu sur LinkedIn ou sur une autre plateforme, si on veut te retrouver aussi. Enfin, je parle de LinkedIn, mais je ne sais pas si tu produis du contenu sur LinkedIn.
Ouais, je produis un petit, tout petit peu de contenu sur LinkedIn. C'est prévu d'en faire un peu plus en 2024. Mais oui, donc sur LinkedIn, je suis actif. Et même si je publie pas forcément de contenu, au moins je suis présent. Et donc c'est un bon moyen pour rentrer en contact. Voilà, LinkedIn, c'est une bonne plateforme.
Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup encore une fois et je te dis à très bientôt. Salut Thibaut.
Génial. Merci à toi, Daniel. Salut.
Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Partagez-le sur les médias sociaux en me taguant. Ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.